Interview.
10 Bois pour l'interview émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou aussi en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, l'interview se déroule au sein de la boutique Jaja Culture et j'ai devant moi Eric et Malik. Bonjour tous deux.
Salut Yves.
Bonjour.
Vous êtes ici donc dans cette boutique qui est installée au 51 rue Camille Buffardel, en centre-ville de Die. Et vous êtes ici pour nous parler d'une passion et que, dans laquelle vous vous êtes lancé aussi sur le vin.
Ben ouais, complètement. Que répondre à ça? C'est, en tout cas, c'est juste. C'est ça. Mais je pense que Eric... Ça part d'Eric, du coup, je pense que c'est à lui d'amorcer le...
Ben, je vais faire un petit peu l'historique. Donc, moi, ça fait 7 ans que je suis installé sur le Diwa, et 5 ans que je suis, presque 7 ans que je suis installé sur le marché, à vendre du vin sur le marché de Die, de Luc et de Saillant, voilà. Et puis, m'est venu cet hiver, cet hiver, en 2020, là. Pendant ces fameux confinements, et ben me suis dit c'est peut-être le moment d'ouvrir une cave afin de pouvoir proposer une plus grande gamme de vins. Parce que sur le marché, on est toujours un peu limité. Voilà. Et connaissant Malik, qui était au Bistrot Badin depuis 3-4 ans, et puis qui avait arrêté, je savais qu'il venait d'arrêter. Donc, je me suis dit pourquoi le faire tout seul ? Faisons-le à deux, voire à plus. Mais pour le moment, on est deux. Voilà, donc j'ai proposé à Malik d'intégrer la cave et d'amener son savoir, ses vins, etc. Voilà.
D'où vient cette passion pour le vin, ce désir de chercher? Vous êtes à la recherche toujours d'une perfection, quelque part aussi?
Perfection, non, je crois pas. C'est un gros mot, là. C'est très dur la perfection dans le vin, je ne sais pas si ça existe. Non, c'est vraiment, je répète, c'est le plaisir, quoi. Moi, c'est la gourmandise.
D'ailleurs, elle n'est pas repassée ta chemise.
Je suis bien gourmand. Voilà, et je pense que c'est ça. Hein. C'est historique, c'est familial aussi.
Carrément.
C'est carrément familial chez moi.
Et puis dans le diwan, on a du mal à se chauffer. Du coup, une bonne bouteille de vin, bah, voilà, ça résout pas mal de problèmes. Voilà, non. Moi, je dis des bêtises, mais le vin, ça peut avoir une... disons un manque de c'est sur le second plan, on parle de plaisir, on parle de quelque chose qui n'est pas vital à proprement parler, mais je trouve que voilà, de plus en plus on se soucie du bien-être alimentaire, de la façon dont on consomme, c'est un peu un acte politique tout ça. Et voilà, moi j'ai quand même envie de me rassurer en me disant, ici on essaye de faire bouger les choses à notre échelle, de faire bosser des petits qui font du bon boulot, qui font propre et qui, voilà, qui amorcent une nouvelle vision de l'agriculture, chose qui dans le Diwa a déjà bien sa place et qui est bien établie. Et du coup, voilà, c'est quand même parler de plaisir, de qu'est-ce qu'on va boire ce soir avec les amis, avec des gens qu'on rencontre. C'est des moments de plaisir et voilà. Et nous, on est là pour conseiller, pour accompagner et surtout pour apprendre à connaître les gens qui franchissent la porte. Certains sont des amis, certains sont des clients d'avant ou des clients tout nouveaux. Et puis d'autres sont à venir. Et le but, c'est de créer une petite relation, d'apprendre à se connaître un peu plus, d'apprendre les goûts de chacun et de parler aussi d'autre chose que du vin, parce que du coup, le vin vient des fois un peu compléter... vient compléter une soirée, une entente, une blague, un moment chaleureux. Et voilà, on apprend à se connaître tous ensemble. Et je crois que c'est ça le vrai boulot de caviste, c'est c'est d'aller taper juste suivant les goûts de chacun, suivant les humeurs, parce qu'on arrive à anticiper ça, parce qu'on connaît les gens petit à petit. Voilà.
Éric, vous parliez donc de production au niveau national. Hein. Pour l'instant, c'est le circuit que vous proposez actuellement. Comment s'opère la sélection des vins que vous mettez en vente ici ?
Eh bien, la sélection, alors ça peut être du bouche à oreille, c'est-à-dire des gens qui nous disent « Ah, mais va goûter ça, c'est très bon ». Et puis voilà, d'autres vignerons ou d'autres des amis. Sinon, ben, on va beaucoup sur des salons où on découvre plein de choses. Et puis, le temps passant, on regoute et puis on va voir les producteurs, on les rencontre, voir comment ils travaillent. C'est important, ça, savoir comment ils travaillent. Et puis après, une fois qu'on est tombé amoureux, ou amoureux, c'est un bien grand mot, mais voilà, qu'on est tombé sous le charme du vin... Eh bien, on en prend quelques cartons.
Et vous parliez de méthode de travail, de production. Quels sont vos critères, justement, dans ce que vous avez envie de faire partager ?
Eh bien, nous, l'une des conditions indispensables, je dirais, c'est déjà que ça soit propre au niveau de la culture. Donc je pense que 99% des références qu'on propose sont en bio ou en biodynamie. Voilà, ça c'est déjà la base. Et après, là, de plus en plus quand même, on essaye de travailler, on travaille avec des vignerons qui vinifient de ce qu'on appelle de manière naturelle. C'est-à-dire qu'ils laissent le vin se faire naturellement sans lui appliquer des méthodes brutales, sans de rajout de produits divers et variés. Ça peut être Malik en parlera.
Malik, oui. Et les critères aussi, on parle de bio, biodiversité, de vin naturel aussi.
Oui, moi je vais juste compléter avec trois mots. C'est pour moi important de souligner que c'est des artisans. Parce qu'aujourd'hui, le monde du vin, il est quand même beaucoup représenté par des très grosses structures qui font pas que du vin, souvent. C'est une des branches qui est à la mode et qui fait partie de la culture française. Donc, chaque grande société française a son domaine planqué quelque part, voire ses domaines. Et beaucoup de vins sont devenus des marques et des produits commerciaux. Et du coup, voilà, l'idée, c'est quand même d'aller un petit peu contre ça, de faire travailler des paysans, des petits producteurs, au sens noble, hein, des gens qui, par un coup de tête, par amour, par passion, par envie, avec une pointe d'audace, se sont dit, ben voilà... aujourd'hui, si je travaille bien avec malgré le fait que j'ai quelques lopins de terre, ça peut suffire. Effectivement, les vins qu'on représente sont des vins de petits vignerons à grande majorité, des personnes qui travaillent sur 1, 2, 3 hectares. Là, on a quelques jeunes vignerons qui commencent avec moins de 2 hectares. C'est vraiment une pincée de sel, quoi. Mais quand on travaille bien, on peut se permettre aussi de vendre les bouteilles peut-être un petit peu plus cher que ce qu'on voit habituellement. À nous, après, de trouver le bon équilibre pour les retransmettre à nos clients. Mais voilà, il faut... voilà, on veut vraiment, moi je mets l'accent sur le fait qu'on travaille avec des petits qui gardent toute leur entité, qui gardent leur charme, leur caractère. Et ils sont de plus en plus à fleurir un peu partout. Voilà, il y a un vrai renouveau du vin et du coup avec ce mouvement de vin naturel, on se rend compte que voilà, les vignerons arrivent à faire le pas maintenant et à devenir vignerons, néo-vignerons. À venir à la vigne plus facilement, alors certainement dans des coins qui sont encore accessibles financièrement, puisqu'il y a certaines régions viticoles qui sont clairement rayées en rouge. On parle de la Bourgogne, on parle du centre bordelais, de certains grands vignobles cotés qui ont des hectares de vignes, du foncier à des prix pas possibles. Et du coup, c'est vrai qu'on voit pas mal de jeunes qui s'installent dans le sud, dans le Luberon, dans les PO, en Savoie, dans l'Ain, en Ardèche. Il y a plein de petites zones qui fleurissent comme ça, qui n'étaient pas forcément sur le devant de la scène il y a une vingtaine d'années, et qui maintenant valent le détour, et on trouve de plus en plus de petits artisans, des artistes, quoi, qui font leur sauce, et nous, notre boulot, c'est d'aller en chercher certains, voilà, avec ce qu'on a comme place dans la boutique, ce qu'on a dans nos poches aussi, donc on fait ça gentiment. C'est le début, mais le but, c'est de faire découvrir des bons canons, des canons un petit peu cachés, un peu... comment je pourrais dire ça, des coups de fusil, des petits nouveaux, des nouveautés, des enfin voilà. Voilà moi ce qui m'excite dans le vin en tout cas. Voilà, j'arrête de parler.
Ça diffère un peu.
Je parle trop.
Vous citiez le centre bordelais. Récemment, un article est paru sur des grosses compagnies de distribution de vignobles dans le Bordelais qui se sont fait prendre la main dans le panier le fait de mettre un coup de tampon sur des papiers pour passer d'une picrate à un vin de qualité distribué dans les boutiques renommées. Il y a aussi, je dirais, une espèce d'omerta sur la fabrication de certains vins, surtout au niveau de ces conventions, enfin des vignobles conventionnels, je dirais quelque part, si on peut parler comme ça, contrairement à ces petits producteurs qui essayent de vendre un vin honnête.
Bah oui, un vin honnête et buvable, parce que il faut qu'il soit buvable. C'est un peu notre critère aussi. Oui, je ne sais pas, sur les pratiques des grandes industries, je n'y connais pas vraiment. Moi. J'ai toujours été qu'avec des producteurs qui faisaient leur vin eux-mêmes. Même dans les caves coopératives avec lesquelles on travaille, ça reste de l'artisanat. Je sais qu'il y a des pratiques bizarres, mais bon, je ne sais pas trop... Je sais pas trop ce qu'ils font.
Non, on va pas s'étaler là-dessus, mais qui dit marque et grandes entreprises et business et tout ça, forcément certains profitent et on peut falsifier quand c'est des vins à grande échelle et quand ça devient déjà du lourd. Enfin, quand ça débite en grand nombre, c'est ce qui se passe souvent. Maintenant, il faut savoir que certaines pratiques légales dans les cahiers des charges sont encore largement pratiquées et méconnues et peuvent faire peur. Je pense à des ajouts d'acide citrique pour acidifier les vins lors des années un peu chaudes. Je pense à l'ajout de sucre qui est très courant dans le Diwa par exemple, même chez les bons vignerons, tout ça, c'est voilà, il y a encore des pratiques œnologiques qui sont autorisées, qui sont culturelles, qui sont bien ancrées et que les gens ne connaissent pas forcément à grande échelle. Et ça peut choquer, ça peut être choquant. Après, ce que tu disais, Yves, avec les grands, on parle encore d'un autre souci, c'est que depuis très longtemps, le vin est chimique et les sols se dégradent. Et tout ce qui va autour, hein, la biodiversité et la santé des riverains qui sont autour. Et ça, bon, ça a explosé il y a quelques années. Il y a eu des scandales sanitaires à Bordeaux et dans d'autres régions. Mais tranquillement, ça les rattrape. Et je pense qu'on est vraiment à l'aube de jours nouveaux, de plus d'engagement à ce niveau-là. Et en tout cas, dans la consommation, je trouve que les clients sont plus à même d'être à l'écoute de ça. Ils ouvrent grand leurs oreilles, ils cherchent de plus en plus des vins propres, des vins qui n'auraient pas de pesticides et de produits chimiques. Et ça, c'est carrément le plus important. On est sur la bonne voie.
Ah.
Justement.
Juste dire un truc, l'expérience montre, et chez les vignerons aussi, c'est que de faire beau, c'est-à-dire de faire propre, ça fait du bon vin, en fait. Bon, il n'y a pas que ça comme condition, mais... et beaucoup de vignerons, moi, que j'ai connus il y a 30 ans, qui étaient en conventionnel, qui ont décidé de faire du bon vin il y a 20-30 ans, sont passés en terraviti, sont passés en bio, et certains commencent à dire « Ah ben, on va arrêter de souffrer, ou on va arrêter de mettre tel produit. » Voilà, ça fait bon, quoi, aussi.
C'est un chemin. Hein.
C'est vraiment...
C'est un chemin.
Voilà.
D'ailleurs, après, pour les vins, vous semblez parfois vous promener, aller sur des territoires comme des explorateurs pour trouver l'animal rare.
Et ben ouais, avec la machette. Des machettes, justement, il n'y a pas longtemps.
Voilà. Et ben, oui, je ne sais pas, on peut dire ça. Ouais. Moi, des fois, c'est plus dans les salons. J'ai l'impression de me perdre quand il y a 50 ou 200 ou 2000 vignerons. Pas 2000, j'exagère. Mais il y a des salons où il y a 1000 vignerons. Et de se laisser... c'est plus... Ouais, on se perd dans le salon. Et du coup, on découvre des choses intéressantes, insoupçonnées, des fois. Il y en a qui nous dit « Allez là !» Hop, allez là. Voilà. Et ça peut arriver, oui, dans la campagne française, j'allais dire, quand on est en vacances plutôt, de se promener et de trouver par hasard un vigneron ou d'aller voir un vigneron dont on nous a parlé et de faire une vraie découverte. Ouais, ça, c'est bien.
Moi, me concernant, j'ai un petit peu moins d'expérience de salon. Ça m'arrive d'en faire et c'est sûr que c'est un moyen beaucoup plus rapide et efficace en termes de rendement. Pour trouver des nouveaux talents et des références qu'on a envie de proposer ensuite à la vente. Cela dit, voilà, moi, avec l'expérience de restauration que j'ai eue, je m'étais complètement perdu et j'avais plus du tout le temps d'aller justement sur le terrain, d'aller voir les vignerons, tout ça. Chose qui a été inversée il y a peu de temps. Et du coup, je prends vraiment beaucoup de plaisir à retourner un petit peu voir les vignerons, aller justement se balader dans la vigne, aller goûter du croquer du raisin, aller goûter sur les fûts, les nouvelles cuvées qui sont en cours de vinification, ou même, il n'y a pas longtemps, on était chez David Bottin à goûter les cuves en fermentation, voir un petit peu les jus de l'année, ce que ça donne. C'est hyper important. C'est le contact avec le vigneron, c'est des moments simples et hyper authentiques qui font qu'après, on ne parle plus, on n'est pas... Dans ce monde-là, on n'a pas l'impression de parler à des gens avec qui tu fais du commerce, en fait. On se parle vraiment d'homme à homme, de femme à homme ou de femme à femme. Mais on n'est pas des produits de consommation. On se parle vraiment de ce qu'on fait, de ce qu'on aime. C'est un côté loisir, en fait. On n'a pas l'impression de bosser. Même si le but, c'est quand même de faire... on est un commerce comme les autres commerces de dit. On vend juste un produit de plaisir et du coup, on se comporte un petit peu comme ça. On navigue avec le plaisir. Moi, cet été, Eric a beaucoup tenu la boutique parce qu'on avait besoin en famille de faire une petite césure entre les deux projets. Et du coup, on a pu se balader vraiment dans les vignobles et dans certains vignobles qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui sont très éloignés d'ici. Et clairement, ma méthode de prédilection, c'est sélectionner des vignerons ou des vigneronnes dont on parle depuis longtemps ou que j'ai un petit peu dans le viseur et d'aller les voir, quoi, hein, et de faire des fois des détours pas possibles pour aller les voir. Et voilà, juste aller goûter les vins... passer un moment. Il y a aussi la transmission qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de faire ça avec mes enfants, avec ma femme aussi. Faire ça en famille, c'est un côté hyper... c'est gratifiant, c'est l'impression de faire un... Je sais pas, que c'est une activité comme d'autres emmènent leurs gamins faire du parapente. Moi, je les emmène faire les tours des caves et je trouve ça génial.
Je parlais aussi d'explorateurs. Il y en a parfois qui viennent chez vous, justement, pour goûter, parce que vous faites goûter, déguster hein, vos ventes. Est-ce que là, il y a aussi une manière, la personne qui vient vous voir, de partager les connaissances, ou aussi des producteurs?
Eh bien, oui, en général, nous, on aime bien faire déguster, nous, et faire déguster... Ça a deux fonctions, j'allais dire. C'est d'avoir un moment de partage, ouais, de faire goûter une autre découverte. Ça peut être aussi une manière moi, ça peut être ça, de me conforter dans mon choix et de dire aux gens, qu'est-ce que tu en penses? D'avoir des avis, des retours sur ce qu'on... Et puis surtout, ouais, l'envie de faire partager ce que nous, on pense avoir découvert, quoi. Même si on n'est pas les inventeurs, mais voilà, de faire découvrir notre petit plaisir qu'on a trouvé.
Maintenant, voici le temps de la question gagnante. Combien existe-t-il de producteurs au sein de la boutique Jaja Culture? La réponse permettra de gagner un excellent cru proposé en cadeau par Eric et Malik.
Eh bien oui, on va vous dégoter une petite bouteille hein, pour le premier qui trouve ça. Hein.
Il n'y a pas que du vin dans Jaja Culture, il y a d'autres produits, donc je vois des bières, des produits secs aussi, des épices qui seront en vente prochainement, je vois.
Eh bien oui, ça c'est le petit jardin d'Odile, ça, qui fait des mélanges d'épices, qu'il les fait pour la tour ambulante, donc pour nos services traiteurs. Et qui du coup les propose à la vente ici. Ce sont tous ces mélanges particuliers que je vendais déjà un peu sur le marché. Et puis voilà, on va compléter la gamme avec des épices bio. Et puis voilà. Et sinon, ben pour présenter un peu ce qu'on propose. Donc oui, effectivement, on propose des bières. Donc en ce moment, pour le roman, c'est le début. Donc il y a une bière de Luce Lacroix-Haute, moi, que je connaissais depuis longtemps et que je ne trouvais pas sur le Diwa. Donc c'est la BHB, la bière du Haut-Buëch. Et Malik nous a dégoté une petite bière un petit brasseur d'Ardèche qui s'appelle Hard Dresh.
Et bière de métalleux.
Une bière de métalleux, il paraît. Voilà,
faut écouter du rock. Voilà. C'est des bières très houblonnées.
Voilà, puis on propose quelques jus de fruits, donc de la ferme du Bloudon qui est à Chalancon, du jus de raisin et du jus d'abricot, le fabuleux jus d'abricot du Clos des Cimes. Et puis voilà, quelques autres produits, du vinaigre, des cerises, et de l'huile. Alors de l'huile d'olive, en ce moment, il y a de l'huile d'olive de Crète, parce qu'on a des contacts avec des gens qui font des voyages.
C'est pour les punks? Voilà. Et l'huile d'olive pour les punks.
Voilà, donc il y aura régulièrement des produits comme ça. Voilà.
Voilà, et puis des savons hein, aussi.
Ils sont faits à l'huile d'olive de Crète.
Justement, pour les punks, c'est pour que les punks se lavent. Voilà. Non, moi je complète juste en disant voilà, qu'on a quand même aussi une petite gamme de spiritueux. D'eau de vie, ça va du whisky, on a une belle gamme de rhum, là, des tres hombres, les rhums qui voyagent en voilier, un petit peu d'armagnac, cognac, des fines de faugère, on a d'autres eaux de vie qui vont arriver, du gin, des liqueurs, un peu d'apéritifs, tout ça, et quelques vins, mutés, comme... on a quelques muscats, des vins tuilés, des rastos. Voilà, on a tout. Bon, normalement, ce qu'il faut pour faire un bon repas, pour faire des cadeaux, etc. Quoi. Voilà, voilà. Mais sinon, on reste quand même principalement sur les vins.
On est à un demi au niveau des produits. Je vois aussi qu'il y a des fruits hein, au sirop ou à l'alcool. Comment ça s'appelle, ça?
Oui, mais c'est les cerises au vinaigre là, qu'on avait.
Ah, d'accord. Justement, au niveau des spiritueux, pareil, comment vous sélectionnez ça? C'est par le goût, par la recherche, le test. D'ailleurs, comment vous allez justement au-devant de ces producteurs qui sont éloignés? Le whisky, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui en produisent.
Ouais, on pagayait, hein, on pagayait. On s'est acheté une petite barque avec Eric. Puis non, là pour, c'est un petit peu moins, c'est un petit peu moins funky pour les eaux de vie, si ce n'est qu'on essaye de, bah, comme pour les vins, de sortir des réseaux et des circuits classiques, je veux dire. On ne veut pas de grosses maisons de revendeurs comme beaucoup se font avec des catalogues et où carrément c'est le supermarché, on commande ce qu'on veut, ça arrive devant la boutique. Du coup, il y a quand même un vrai boulot de sélection en amont. Donc on goûte évidemment tout ce qu'on commande, comme pour les vins d'ailleurs. Hein. On goûte les vins avant de les acheter, ça c'est une évidence. Et ensuite, on en discute, ça passe par là. Et puis on fait venir ce qu'on a envie pour avoir une gamme assez complète, mais quand même concise. On n'a pas pour vocation d'être une cave à spiritueux non plus. On aura une belle étagère et puis ce sera pas mal. Voilà.
Pour vous, s'arrête où l'aspect bio d'un vin?
Moment de réflexion.
Ça arrête tout l'aspect bio d'un vin?
C'est hyper dur. C'est hyper dur à répondre, ça.
Ouais, mais c'est pour ça que je ne vais peut-être pas vous
Si,
l'imposer.
si, c'est un
Non, mais
débat
c'est.
hyper intéressant.
Jusqu'en 2012, il n'y avait pas de vin bio. Il n'y avait que des vins issus de l'agriculture biologique. Donc l'agriculture biologique, on sait ce que c'est. C'est pas d'utilisation de produits de synthèse dans la culture de. Sachant que quand même, juste un aparté, je crois que le vin représente 12% de la surface cultivée en France, ce qui est énorme déjà. Mais je crois que c'est 40% des 30 ou 40% des pesticides utilisés en France quand même. Donc c'est là qu'on voit que c'est énorme, tout ce qui est répandu sur les vignes. Donc voilà, en 2012, il n'y avait pas de. Donc ils ont créé un label en Europe au niveau européen, un label de vin biologique, en faisant une liste de produits. De produits permis d'ajout, voilà, de permis autorisé pour de l'ajout dans les cuves de vin, quoi, dans le vin. Voilà. Je crois que cette liste comprend, je sais pas, 150, un truc comme ça, 150 produits. Voilà, donc il y a plein de gens qui ont dit, mais ça, c'est pas du vin biologique. Donc qui font du vin, qui ont décidé de rien mettre dedans, quoi. C'est-à-dire, non, mais le vin, il a besoin de rien pour se faire et pour se stabiliser. Alors, certains s'autorisent à mettre un peu de soufre ou pas, mais sinon, il a besoin de. Il a pas besoin d'adjonction de produits pour être fait, quoi, et pour être stable. On parle des vins nature, soi-disant, ce qui ne se garde pas, c'est complètement faux. Si le vin est bien fait, si le raisin est sain, le vin naturel peut se garder. 10 ans ou 15 ans, j'en ai goûté moi-même, donc ça va. Voilà.
D'ailleurs, il y a deux types de vins, ceux qui se consomment assez rapidement, hein, sur les 2 ou 3 années après production, et puis d'autres qui sont à conserver plusieurs années pour y trouver une certaine maturité, je ne sais pas, ou un caractère.
Eh bien, oui, c'est on fait des vins différents, c'est-à-dire que comme un artisan, comme disait Malik, les artisans fabriquent des produits, des vins différents. Donc il y a des vins qui vont être faits pour être, qui vont être vinifiés pour être bu assez vite, parce que le plaisir est là, le plaisir est d'avoir quelque chose de léger, de goulayant, de fruité, de facile à boire. Et puis des fois, on va avoir envie d'avoir un vin un peu plus structuré, un peu plus charpenté, un peu plus riche. Et donc on va laisser le raisin plus longtemps dans la cuve et on va faire des vins plus tanniques, plus. Et alors par contre, ça va leur donner des fois une dureté, une astringence qui est pas forcément agréable dans la jeunesse. Et donc le vin va avoir besoin d'être élevé longtemps par le viticulteur, déjà, avant d'être mis en bouteille. Et après, va avoir besoin des fois d'être gardé en bouteille plus longtemps. Ouais. Donc ça peut être 2-3 ans, ça peut être 10, 20 ans, 30 ans.
Et c'est d'ailleurs le boulot que Eric avait vraiment commencé à faire avec sa cave ambulante.
Puisque du coup, il propose quelques millésimes qui sont vraiment prêts à boire, qui ont déjà fait pas mal de bouteilles. Et à mon sens, c'est vraiment ce qui fait d'un caviste un bon caviste, c'est de vendre les vins au moment où ils sont bien à boire. Certains domaines ont déjà un petit peu de cette conscience de vendre leur vin prêt à boire. Cela dit, il faut déjà avoir de la trésorerie, puisque garder ses vins et ne pas les vendre, eh ben, ça nécessite d'avoir une position financière plutôt soutenable, ce qui est rarement le cas chez les vignerons, surtout ceux qui débutent. Du coup, voilà, pour un caviste, il y a un vrai défi de on goûte, on met certains vins de côté, on les élève tranquillement dans la cave. D'ailleurs, on a une super cave hein, sous nos pieds. Et on les ressort au moment où c'est le plus opportun pour les boire. Et on parle aussi de saison, puisque là, on est en plein ramdam avec Eric pour ressortir des vins un petit peu d'automne, d'hiver, des vins de plein en sauce, des vins qu'on a envie de boire pour se réchauffer quand on a un peu froid. Et voilà, tout ça, c'est notre boulot, quoi. On aura d'autres vins au printemps, des vins plus frais, plus joviaux, plus légers. Et voilà, et on va en fonction de la météo et des saisons.
Le goût, comment le partager et comment trouver un langage commun pour le goût entre vous et les personnes qui viennent vous voir?
Bah déjà, entre nous, on n'y arrive pas toujours. Et c'est difficile parce que y a un vocabulaire, mais ça c'est un peu pour tout. Hein. C'est les mots veulent pas dire la même chose pour tout le monde, et même les ressentis ne sont pas les mêmes pour chacun. Déjà vous faites sentir un vin à quatre personnes différentes. Si se concertent pas, vous aurez quatre saveurs différentes. Chacun va dire ah mais moi je sens la fraise. L'autre, il va dire, je sens la framboise, la cerise, et voilà.
C'est gouléant.
Et c'est gouléant. Et après, c'est vrai qu'il y a un vocabulaire qui permet de... Ben, c'est un peu un consensus entre nous, quoi. Qui veut dire que ben, ça veut dire ça. Tel gouléant, ça veut dire qui gouléille, c'est-à-dire qui passe bien dans la gorge. Qui accroche pas, qui chatte. Voilà. Et donc, oui, c'est un vocabulaire, mais il faut. Mais notre but, c'est d'essayer de faire parler la personne. Alors, pas forcément en ces termes-là, mais notre travail aussi, c'est ça.
Avec sa poésie.
Avec sa poésie à elle, avec ses termes à elle, et essayer de comprendre ce qu'elle veut, ce que la personne souhaite et aime, surtout, pour essayer de lui proposer le vin adéquat, quoi. Mmh. Voilà.
Il s'agit de trouver le juste milieu entre quand même s'exprimer avec des mots, c'est-à-dire des mots audibles pour tous, qui sont bien entendables, qui sont compréhensibles, et quand même utiliser le vocabulaire adapté. Et je pense que c'est rendre service à tout le monde d'utiliser des mots, un champ lexical adapté au vin. Non seulement on apprend, ça a un côté assez mystérieux et qu'on aime beaucoup. Mais la chose la plus importante, c'est quand même de rester compréhensif et compréhensible de tous. Et je pense qu'on le fait pas mal. On reste quand même assez terre à terre sur la façon dont on présente les vins. Et moi, j'aime bien souligner qu'on ne fait pas que parler des goûts et de ce qu'on ressent du vin à proprement parler, mais aussi beaucoup de ce que ça nous provoque en termes d'émotion. Moi, j'aime beaucoup parler des moments, c'est-à-dire un vin, ce vin-là, par exemple, je vais te le proposer parce que tu m'as dit que tu avais envie de boire un coup avec des amis ou alors d'ouvrir ça en famille avec tes parents que tu n'as pas vus depuis longtemps. Il y a certains vins qui déclenchent des émotions et qui sont appropriés pour certains types d'événements ou non. Et du coup, il y a tout ça qui est beaucoup plus facile à comprendre pour chacun. Et l'autre jour, il y a un petit garçon de 6 ans qui est rentré avec son papa et qui, en ressortant, il nous a regardé, il nous a dit...
c'est incroyable. Vous parlez comme dans des pubs. Et alors tout le monde s'est fendu la poire. Et c'est drôle parce qu'au final, c'est un peu ça. C'est un peu le truc mystique. On est des. Ce côté un peu magique du pinard, faut qu'il soit là. Et en même temps, faut que ce soit facile à comprendre. Et la pub, elle est là pour ça. Hein. Faut que ce soit. C'est clair. Le message, il est clair. Et c'est super important.
Nous pouvons aussi retrouver votre boutique sur les réseaux sociaux.
Eric, tu veux dire un mot peut-être?
C'est lui qui en parle, parce que moi, je suis pas pour ni contre, mais bien au contraire. Mais voilà, on va laisser Malik parler de ça.
On peut en parler avant le Covid ou après le Covid? Vraiment en deux mots, j'ai créé une page Facebook comme je l'avais faite auparavant pour le Bistrot Badin, mais c'est des choses qui sont assez nouvelles que j'essaye de faire vivre parce que j'ai quand même l'impression, de mon point de vue, c'est important pour toucher une certaine catégorie de personnes ou un certain nombre de personnes dans nos entourages qui sont pas forcément ici tous les jours. Ici à Die localement, faire vivre un petit peu aussi. Moi, je me prends un peu au jeu hein, quand on a des nouvelles bouteilles qui arrivent. Là, c'est con, je vais poster un truc sur Facebook parce qu'on a une copine qui nous a fait un joli fauteuil et ça nous permet de faire des blagues. Je vais marquer que vous pouvez enfin venir avec votre mamie qui a un siège confortable pour vos fesses. Voilà, c'est juste histoire de rendre un petit peu vivant. Et c'est important, surtout en période creuse, parce qu'à des moments, quand on voit trois personnes dans une journée entière, et ben on a le moral un peu en déroute. Et de faire vivre différemment la boutique sur un espace numérique avec d'autres messages, d'autres interactions, ça permet quelque part d'être ouvert ailleurs et de rester un petit peu visible et vivant, parce qu'on en a bien besoin en hiver, quoi. Voilà.
Eh bien, Eric et Malik, on précise le nom de la page ou pas?
Ça doit s'appeler Jaja Culture, hein, normalement.
Je le confirme, hein, j'y suis allé ce matin. Eric et Malik, je vous remercie tous les deux de m'avoir accordé un peu de votre temps pour nous présenter votre boutique Jaja Culture au 51 rue Camille Buffardel. Et rien de mieux que de s'y rendre, hein, de toute façon.
Ben oui. Venez, venez boire un canon.
Ah oui, ouais, franchissez la porte, c'est hyper important. Ne serait-ce que
c'est quand même la plus belle boutique de Die, je pense.
Non, ne serait-ce que pour ceux qui sont pas encore venus, juste pour découvrir le lieu, ça arrive que des personnes qu'on connaît déjà franchissent le pas de la porte juste pour regarder comment est-ce qu'on a fait la boutique. Mais voilà, juste passez, venez vous interroger, venez dire bonjour, qu'on discute 5 minutes. Évidemment, pas obligé d'acheter toujours des bouteilles, mais juste, voilà, juste de vivre ensemble, c'est chouette.
Bonne soirée.
Salut.
Eh bien, bonsoir.
Avant de chanter ma vie, de faire des harangues dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre ressobre. On compte que j'eus la tête au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches. En guise de sang, aux noblesses sans pareil, il coule en mon cœur la chaude liqueur de la treille. Quand on éteint ça, j'ai qu'on a dû savoir boire. On se garde à vue en cas de soif une poire. Une poire ou deux, mais en forme de bonbonne. au ventre replet, rempli du bon lait de l'automne. Jadis aux enfers, sert-il à souffert, tant à le quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste mais faux, bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche. Qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers courront y noyer leur peine.